Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, eh bien, on joue la prolongation. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien pour ce retour de l'émission, le retour tant attendu, en tout cas le moment de l'animateur, en tout cas pour moi, c'est un retour et j'en suis ravi. Vous avez entendu sa voix. Vous avez entendu sa voix. Il est avec moi aujourd'hui. Si vous avez reconnu sa voix, vous reconnaîtrez. Et voilà, petit jingle musical. C'est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il va nous parler terrain, il va nous parler autre chose, marketing aussi, on espère bien. Il s'agit du seul et unique Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu?
Salut Sam, content de te retrouver. Après deux petites semaines.
Voilà.
C'est cool.
On va
parler des stades après.
On va parler stades. On sera ravis de parler des stades notamment. On va essayer de. Il est là, ça c'est sûr. Je le vois, je ne sais pas si lui nous voit. On va essayer de faire en sorte qu'il puisse nous voir. C'est la voix de la matinale. Votre voix de la matinale, vous connaissez aussi son jingle. Eh oui, parce que outre apparaître la voix. La voix préférée de vos matinales, vous le retrouvez tous les matins au micro à partir de 7h avec Lisbeth Kémoun et toute l'équipe. Il s'agit bien sûr de Didier Kuhn. Salut Didier, comment ça va?
Ben ça va bien, salut à tout le monde, salut Alex, Sam, ravi de te voir, je crois que de t'entendre surtout. C'est bonne année Sam, ça fait longtemps.
Ouais. Eh ben, ça fait longtemps, ça fait un grand plaisir de te retrouver aussi. On va parler donc évidemment de tout ce qui s'est passé cette semaine et notamment bien sûr du football de la semaine belge et notamment bien sûr de la 22e journée de Jupiler Pro League qui a donné lieu à un affrontement très attendu dans le haut du tableau, un affrontement qui faisait suite à un premier match entre les deux équipes jeudi. C'est bien sûr l'Union et Anderlecht qui se sont affrontés, mesurés l'un à l'autre hier avec un résultat dont on va parler. On va également parler de ce qui se trame, de ce qui se passe un peu partout en Europe, sur les bancs de touche notamment, puisque on parle notamment des changements qui interviennent sur les bancs de Liverpool. On a appris le départ de Jürgen Klopp, on a appris le départ de Xavi Hernandez du banc du Barça, et donc ça va être l'occasion pour nous de parler de tout ça. Et y a même une rumeur qu'Arteta serait sur le départ d'Arsenal. Ça va faire une valse. On sait qui s'en va, mais on ne sait pas qui va atterrir où. Et puis on va parler aussi d'autres choses. Je crois qu'il y a un petit coup de gueule peut-être de la part de notre ami Didier, en tout cas. Peut-être qu'Alex se joindra à ça. Il a été décidé que le match Anderlecht-Genk serait rejoué. Oui, mais c'est pas sûr, parce que Anderlecht a fait appel. On en parlera, on vous dira tout de ce feuilleton à rebondissement. Et bien sûr, on va parler marketing avec toi, Alex, pendant la minute Sportimize. Est-ce que tu peux déjà nous donner un petit aperçu, un avant-goût de ce dont on va parler?
On va se balader dans les stades.
On va se balader dans les stades.
Virtuellement, évidemment.
Oh, virtuellement. Donc, sans bouger de notre canapé, on pourra se balader dans les stades. Et bien sûr, on va commencer par parler de notre Belge de la semaine. Comme toutes les semaines, on met à l'honneur chacun un Belge, ou pas forcément un Belge, mais quelqu'un qui joue dans le championnat ou un Belge qui joue ailleurs. En tout cas, une personnalité qui est liée au football belge. Et donc, je vous propose qu'on commence tout de suite. Mais avant tout, comme tout bon match de football, il faut donner le coup d'envoi. Voilà, coup d'envoi donné. On va pouvoir démarrer avec notre Belge de la semaine. On ne s'est pas consulté, donc on va voir qui a choisi qui. Je vais commencer par toi, Alex. Didier, fallait être en plateau pour avoir les honneurs du début.
Avantage. Ah, mais j'ai pris Loïs Openda, qui ça fera plaisir à Didier parce que c'est un ancien brugeois. Et bon, ils ont perdu face à Stuttgart ce week-end, face à un ancien unioniste qui a mis un hat-trick, Denis Undav, on ne le citera pas. Mais Loïs Openda a marqué et c'était son 13e but à Leipzig. Ce qui fait de lui ex aequo le meilleur buteur belge en Bundesliga sur une saison, car Emil Mpenza avait marqué 13 buts lors de son passage à Schalke dans le passé. Et donc, j'ai quand même bon espoir et je pense que Loïs Openda pourra battre ce record d'Emil Mpenza dans les semaines à venir et devenir donc le meilleur buteur belge de Bundesliga. Donc, c'est pas simple. Et chapeau bas, alors, l'ancien brugeois qui, on le rappelle, était parti pour 7 millions de Bruges à Lens après un petit passage au Vitesse Arnhem et qui a tout explosé en Ligue 1. Et là, il est quand même en train de faire les beaux jours de Leipzig en Bundesliga et en Ligue des Champions.
Chapeau à lui parce que, effectivement, enchaîner deux saisons avec ce nombre de buts dans deux championnats différents, ça prouve que on peut se louper quelque part et rebondir de belle manière ailleurs, en France puis en Allemagne. Bravo à Loïs Openda.
Loïs Openda, c'est le
voilà, ça va être
c'est plus compliqué, mais c'est un très bon buteur aussi.
il allie les qualités des deux. Didier, qui as-tu choisi?
Eh bien moi, figurez-vous que avant hier 18h30, je n'avais pas la moindre idée. Et puis après le match Anderlecht-Union, j'ai choisi mon Belge de la semaine. Il s'agit de Jan Vertonghen. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui auraient pu réaliser ce qu'il a réalisé, c'est-à-dire deux floches majestueuses sur une demi-heure de temps. Lui qui est un défenseur diable et qui a fait des erreurs de débutant et qui a vu son équipe mener 0-2, il ne s'est pas démonté. Et c'est lui qui a remis son équipe dans la partie en marquant un but rageur, absolument somptueux d'ailleurs, pour que Anderlecht puisse encore croire au miracle qui s'est produit d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui les auraient eu, comme auraient dit Jean-Michel Larquet et Thierry Roland à l'époque, que pour pouvoir se relever de ça, il y a des joueurs qui ratent un pénalty et qui, les trois semaines suivantes, sont à la rue. Lui, il a fait deux floches, il s'est relevé et il a montré l'exemple en bon capitaine qu'il est. Même si Anderlecht n'est pas mon équipe favorite, moi, je lui tire un grand chapeau et je comprends mieux pourquoi on l'appelle Sterkeyan maintenant.
Ouais, chapeau à lui. On va en parler, bien sûr, lors du développement de la journée de championnat en Belgique et puis également des rumeurs de transfert, puisque Jan Vertonghen a besoin aussi de souffler à son âge. Et donc, il semblerait qu'Anderlecht soit sur la piste, à moins que ce soit déjà conclu, d'un joueur qui viendrait mettre un peu de concurrence. Moi, j'ai choisi un joueur qui, je pense, va faire l'unanimité ici, va faire très plaisir à Didier, à Alex, j'imagine aussi. C'est un joueur pétri de talent qui a fait un passage un peu difficile dans un très grand club. Il a décidé de passer dans un club un échelon un peu plus bas, enfin quand je dis un échelon, dans la même division, mais dans un club un peu moins prestigieux où la pression est peut-être un peu moins forte, l'Atalanta. Et il s'agit bien sûr de Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere a délivré deux assists ce week-end et c'est vrai qu'il son passage à Milan a été un peu compliqué. Là, ça commence à ressembler à quelque chose de réussi à l'Atalanta. Il en est à 7 buts et 7 passes décisives en 24 journées de championnat et il est tout simplement redevenu le Charles de Ketelaere décisif à une différence près, il a un petit replacement quand même sur le terrain. Il joue un poil plus haut. Il joue dans le dos de l'attaquant. Et puis, sans doute que la pression est moins forte. En tout cas, son entraîneur Gasperini a fait une taripa d'éloges sur lui. Il a dit que Charles a fait preuve d'une maturité impressionnante. Il a été un modèle pour nous, non seulement techniquement, mais aussi athlétiquement. Et il a dit que c'était sans doute son meilleur match sous le maillot de l'Atalanta. Finalement, est-ce que c'est pas une question de couleur, hein, puisque l'Atalanta Bergame joue quasiment dans les mêmes couleurs que son club, le club de Bruges. Didier, qu'est-ce que ça t'inspire?
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, tu avais parlé de 7 buts, 7 assists, c'est
oui,
bien ça?
En championnat, ouais.
Mais je crois que c'est sur les 7 ou 8 dernières journées, c'est ça qu'il faut noter.
Exactement, déjà, c'est depuis décembre absolument, il a enchaîné 5 buts, 5 passes décisives, et dans la DH, on nous dit d'ailleurs que c'est une action décisive toutes les 62 minutes depuis le mois de décembre. Ouais. Donc effectivement, il a pris la vague, et la bonne vague, depuis un mois et demi. Et c'est vrai que ça fait plaisir pour lui, et puis c'est une belle perspective à quelques mois de l'Euro.
Déjà, et puis en plus, Charles de Ketelaar est un garçon, en plus d'être pétri de talent, comme chacun le sait, on n'apprend rien, mais il est extrêmement intelligent, il est très très bien entouré, c'est pas un gars qui a la grosse tête. D'ailleurs, il avait hésité, si ma mémoire est bonne, entre le tennis et le football. Il était pour le foot. Il ne s'est pas démonté, malgré qu'en Italie, on dit que la presse en Belgique est déjà bien pressurisante. Que dire alors de la presse italienne? Et il ne s'est pas démonté, il fait son petit bonhomme de chemin, il attend le déclic, tout comme, et peut-être que Alex sera d'accord avec moi, on a attendu un petit peu beaucoup de temps, mais actuellement il est en train d'exploser à Bruges, on parlera probablement de lui, c'est Igor Thiago qui a été transféré à Bruges, dont on attendait le meilleur. On a eu la version, je vais pas dire la pire, mais la pas top. Et là, il est en train d'exploser. Et c'est une preuve d'intelligence que de rester calme face à la pression. Et quand on peut résister à la pression comme ça, ça veut dire qu'on est promis un bel avenir. D'autant plus que de Ketelaar, pour revenir à lui, est extrêmement jeune encore.
Ou alors une longue soirée, si on résiste bien à la pression, dans un bar, notamment.
Oui, ça permet d'avoir... pour toi, Sam.
Alex, un petit mot sur...
Je pense que Thiago, on va en parler après. Ouais. De Ketelaar, non, il se sent bien à Bergame. Peut-être que le Milan, dans la conjoncture du Milan l'année passée, c'était trop. Et alors, il commence mal, il rate des buts. Et le mental est essentiel pour un footballeur. Et on voit clairement, il est dans un bon environnement, propice, avec un entraîneur qui croit en lui. Il fait des miracles en Serie A, dans une équipe qui joue le sub-top. Hein, donc, c'est pas rien non plus. Donc, il a le talent, ça le savait, mais l'aspect mental joue. Et voilà, les feux sont ouverts cette année. Donc, après, à sa place, je ne sais pas si je retournerai au Milan l'année prochaine.
Ouais, c'est vrai que
c'est délicat. C'est très délicat.
Didier,
ton chouchou. Moi, je dis jamais. Je pense que ils l'ont jeté comme entre guillemets, comme une vieille chaussette, pour rester poli. Et je pense que, comme tu le disais très justement, le Blau & Zwart lui va tellement bien, peut-être à l'Inter éventuellement.
C'est ça, ce que je me disais.
Mais il n'y a pas beaucoup qui font le transfert.
En fait. Oui, directement, c'est un peu compliqué.
On a vu avec Lukaku, hein, il y a eu une tentative et c'était quand même galère, effectivement.
Est-ce que vous avez en tête un joueur qui a fait les trois grands clubs italiens?
C'est-à-dire
les trois grands clubs. L'Inter,
le Milan
et la Juve. Baggio. Roberto Baggio, absolument. Il faut vraiment être au-dessus de... Bravo. Et je me demande... Non, je cherchais un Néerlandais, mais non. Genre, il n'a pas joué à la Juve et David n'a pas joué au Milan. À l'Inter, pardon.
Exact.
Bien joué. Il y a peut-être un arrière qui était remplaçant de cette époque, l'Ajax. Non, ils n'ont peut-être pas fait tout. Non.
L'arrière, ils ont resté longtemps debout. Neumann.
Raizigal était au Barça. Oui, Didier.
Vrai, Samuel, qu'on faisait l'émission avec Alessandro De Metteri.
C'est ça, Alessandro De Metteri est là, il est en studio. Ah, on peut faire comme ça à chaque fois qu'on va aborder un championnat différent, on prendra des surnoms locaux. On a bien fait le tour de nos Belges de la semaine. Je vous propose maintenant qu'on revienne en Belgique et qu'on parle de la journée de championnat. Une journée de champion.
Avant de commencer, on me signale que Zlatan Ibrahimovic a fait des trois aussi.
Exact.
Ni plus ni moins que Thomas. On le salue, il nous écoute.
Exact, absolument. Zlatan, puis il en a fait tellement. C'est vrai. On le salue s'il nous écoute. La 22e...
Nous écouter, il ne fera pas.
Comment ?
S'il nous entend, parce que nous écouter, je
non,
pense pas.
Non, c'est pas son style. La journée, c'était la 22e sur 30. On commence à, on le dit à chaque semaine un peu plus, on se rapproche du...
30 phases classiques, Samuel, sur 40.
Absolument, absolument. Oui, oui, mais c'est le premier passage, disons, la flamme rouge, peut-être pas encore la flamme rouge, mais voilà, c'est un premier passage, il y a... C'est plutôt comme dans les courses cyclistes sur piste où il y a des cyclistes qui sont éliminés après un certain nombre de tours. Voilà, là, on va garder que les meilleurs. Et puis, cette journée a été marquée par le choc au sommet qui opposait Anderlecht à l'Union. Un match qui faisait suite à un premier affrontement entre les deux équipes. C'était jeudi, ça avait pour cadre la Coupe de Belgique. Et c'est un match que l'Union Saint-Gilloise avait remporté 2-1 on s'écrivait, pour tout vous dire, dans l'équipe dont joue la prolongation, c'était écrit, et l'un de nous, Alex, pour pas le nommer, nous disait qu'effectivement Anderlecht avait réussi à perdre contre 10 Saint-Gillois seulement, puisque à la 32e minute, McAllister avait été expulsé. Et même en supériorité numérique, les Mauves ont été dominés 2-1 en quart de finale par l'Union, ne parvenant d'ailleurs à marquer que dans la toute fin de match. C'était le 9e revers.
8e.
C'était le 8e, pardon. C'était le 8e. On attendait de savoir s'il y aurait la passe de 9 avant d'envisager la passe de 10. Eh bien, elle n'aura pas lieu, elle n'a pas eu lieu, puisqu'hier, Anderlecht est parvenu au terme d'un petit miracle, ou en tout cas, on va en parler.
La remontada que.
ils sont parvenus à revenir à la hauteur de l'Union, qui avait pourtant démarré le match de manière parfaite. Nilsson avait ouvert la marque à la 8e, Amoura avait marqué avant la demi-heure de jeu. On était heureusement, Jan Vertonghen avait réussi à ramener son équipe dans le match avant que Thorgan Hazard ne parvienne à égaliser en toute fin de match. Il a arraché le point du match nul, et ce faisant, il a permis à son équipe de ne pas voir le voisin et leader s'échapper encore plus. Ça aurait été très compliqué, ils auraient eu 12 points de retard déjà. Alex,
c'est une très bonne nouvelle pour le championnat.
C'est une très bonne
nouvelle. On verra, mais peut-être que c'est un tournant du championnat.
Sait-on jamais, parce que...
Effectivement, tu mènes 0-2 à Anderlecht chez ton rival, tu as l'occasion de creuser de nouveau l'écart et tu ne le fais pas. Donc peut-être que ça pourrait être un tournant. En tous les cas, je suis surpris. Je n'ai pas regardé le match, je n'ai pas suivi le score non plus, mais j'étais surpris de voir le déroulé, le déroulement plutôt, de la rencontre. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une première fissure dans le bloc unioniste ?
Oui, on en parle depuis pas mal de semaines. On se dit qu'il y aura sans doute un moment où ils auront du mal à maintenir ce rythme. Alors, ils ont réussi à gagner et à se qualifier pour la demi-finale de Coupe de Belgique. Ils ont eu un expulsé. Et puis là, la fissure, effectivement, c'est se faire remonter et puis prendre un but dans les toutes dernières minutes. C'est un petit peu le retour de bâton aussi, parce que c'est un peu leur spécialité aussi, parfois, de réussir à retourner le match en toute fin de... à gagner dans les fins de match. Didier, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu dois en penser que du bien, parce que tu connais le résultat du match qui t'intéressait le plus, et on en parlera après. Quand deux équipes font match nul, forcément, il n'y a que deux points qui sont distribués, et le poursuivant qui gagne, lui, il en prend trois.
Ah oui, donc ça fait deux semaines que ça dure, donc pour Bruges, c'est deux week-ends assez salvateurs, je veux dire, par rapport à leurs rivaux directs. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Pour avoir vu le match hier, je vais reprendre, je dirais, une stat qu'avait donnée Benjamin de Senac, notre confrère de la RTBF, qui commentait le match en disant que finalement, Anderlecht hier, c'est deux tirs cadrés, deux buts, et deux tirs tout court, je pense, sur tout le match, je crois, ou pas loin de ça. Et l'Union a tiré davantage, en a marqué deux, mais c'était chaque fois sur un malentendu, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, et on l'a évoqué, la presse en a fait l'écho, des deux floches de Jan Vertonghen. À noter aussi que Schmeichel l'a fait, je dirais, a sauvé pour la première fois, a gagné des points, je pense, en tout cas un point pour Anderlecht. Et en fait, Benjamin Dessenac expliquait que l'Union est l'équipe qui encaisse le plus par rapport au nombre de tirs, de tirs subis par rapport au nombre de buts encaissés sur ces mêmes tirs. C'est une des moins bonnes équipes du championnat. Tandis qu'Anderlecht, c'est une des meilleures ratios entre le nombre de tirs au but et le nombre de buts inscrits sur ces tirs. Donc, il a tiré un corollaire de ça en disant, ben voilà, c'est entre guillemets, de ce point de vue-là, sur cette statistique-là, la meilleure attaque contre la plus mauvaise défense, on va dire ça comme ça. Ouais. Faut pas oublier que l'Union reste toujours, au jour d'aujourd'hui, la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense. Et assez bizarrement, Bruges, c'est l'inverse, parce que moi, c'est mes petits brugeois, c'est la deuxième attaque du championnat, mais la première défense. Et ils sont quand même à, encore, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, je parle sous ton contrôle, Alex, à 11 points. Ou 12 points. 12 points tout juste, je pense. 12 points. Donc, c'est quand même bizarre d'avoir encaissé quelques buts en moins, moins d'un but par match, et de se retrouver à 12 points du leader. C'est quand même impressionnant. Mais le match d'hier a valu pour moi beaucoup par son enjeu et par tout ce qu'on y a mis dans les médias. L'Union a dominé de la tête et des épaules la première mi-temps. Mais enfin, quand tu mènes 0-2, après 30 minutes, t'es quand même dans un fauteuil. Anderlecht a joué avec beaucoup de courage, il faut le saluer. Ils n'ont pas baissé la tête, ils se sont battus courageusement. Mais comme le disaient aussi les commentateurs, on est loin du football champagne prôné par les dirigeants d'Anderlecht. Ouais. On avait l'impression d'être dans un autre cadre, avec des qualités techniques nettement supérieures, mais c'était, j'ai l'impression qu'ils jouaient un petit peu avec la peur au ventre. On se serait cru dans une équipe qui jouait pour survivre dans les play-downs, par exemple. C'est-à-dire que on privilégiait le résultat sur la manière. Par moment, on a vu de belles séquences. Verschaeren, on y reviendra peut-être après deux matchs de post-blessure absolument prometteurs. Il est rentré dans le rang. Par contre, c'est vrai, ça manquait d'imagination, c'était très stéréotypé. Et quand tu joues à la maison et contre un rival direct pour le titre et que tu n'arrives à tirer que 3 ou 4 fois au but, dont 2 cadrés qui font mouche, c'est un petit peu maigrichon, je trouve, même pour ton propre public.
Ouais. Alex.
Oui, c'est maigrichon, mais après, et je pense que ça t'intéresse surtout Didier. Il n'y a qu'un point qui est pris par les deux équipes et en tant que club en embuscade. Je te rejoins. Anderlecht, on pensait au début de saison et j'étais le premier à me dire, ils prennent des points en jouant mal. Qu'est-ce que ça va être quand ils joueront bien? Mais ils savent pas jouer bien pour l'instant. Donc.
C'est clair. Et en même temps, je t'avouerai, et on va délivrer un petit secret d'alcôve, comme on communique entre nous, l'équipe on joue la prolongation. C'est vrai que j'ai rarement été autant supporter des Mauves, sauf en Coupe d'Europe, que hier après-midi, en fin de journée, j'avais très envie qu'ils marquent ce but égalisateur et surtout pas gagner sur le fil, comme ça a failli être le cas d'ailleurs.
Ouais, t'avais avec toi Henri, qu'on salue, qui était ravi d'avoir un soutien Mauve venu des Bleus et Noirs. L'entraîneur Riemer qui a fait entrer. Bonne pioche, il fait entrer Thorgan Hazard qui marque. Bon, ça, parfois ça marche. Ouais, Didier.
Si je peux me permettre, je voudrais m'adresser à vous deux et à Alex en particulier, qui est vraiment plus connaisseur que moi. Que penser de Brian Riemer? Moi, je n'arrive pas. Je ne vois pas la patte Riemer dans ce club. Je vois du talent sur le terrain. Je vois par moments comme ça des fulgurances, des belles actions. Mais c'est tout le moins qu'on peut attendre d'une équipe du rang d'Anderlecht avec des joueurs aussi talentueux. Mais est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a une vraie patte de l'entraîneur?
Non. Il n'y a pas de patte de l'entraîneur, mais il n'y en a jamais eu non plus. Et quand on voit Riemer dans certains matchs, c'est pas lui qui décide de la composition, c'est pas lui qui décide de qui joue. Donc,
Ah bon ?
Ça vient tu as tout un microcosme danois aussi, et comme le dit très très justement Thomas qui nous écoute et qui nous envoie des messages, il aurait pu être là d'ailleurs. Il est là par sa nationalité, Rimmer.
Ouais.
D'accord.
C'est un pion. C'est pas quelqu'un qui a une personnalité, c'est pas quelqu'un qui décide, c'est pas quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui exécute.
Il paraît qu'il est impliqué dans les menus à la cantine. C'est Thomas, bon. C'est Thomas aussi qui me l'a dit.
C'est quoi le menu?
Saumon, ah. Ikea, voilà. Et en tout cas, bah, ouais, Schmeichel, bon, bah, au moins, il fait son boulot.
Pour la première fois.
Voilà, c'est ça. On y vient enfin. Vertonghen, De Bast sont les centraux. On l'a dit, Jan Vertonghen a fait des erreurs, ça arrive même aux plus grands. Léonie a même eu un petit mot sympa en disant l'erreur est humaine et Jan est humain. Mais malgré tout, ça reste un très grand champion et il a su bien se relever. Si je parle d'eux, c'est parce qu'on est sur on fait un petit détour mercato. Un joueur, Federico Gattoni, qui est argentin, qui était un très bon joueur à San Lorenzo. J'avais eu l'occasion de le voir. Il avait été, pas en personne, mais j'avais suivi quelques matchs et il était un bon, très bon joueur. Transféré à Séville et, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce que, en tout cas, quand vous venez d'Argentine, on peut penser que aller en Espagne, ça facilite peut-être les choses pour quand on vient en Europe. Il a joué 9 petites minutes seulement depuis le début de la saison. Il a fait une première erreur, je crois, sur son premier match. Et donc, bah, il cherche un club où il pourra plus s'exprimer. Et c'est vers Anderlecht que son transfert a l'air de se faire. C'est bien, ça va donner un peu de profondeur aussi à l'équipe. Il va pas être fatigué puisqu'il a joué que 9 minutes. Il va falloir qu'il se mette, par contre, dans le rythme. Mauvaise semaine pour McAllister, je regardais ça, il a pris un rouge en coupe, puis il a pris sa 5e jaune dimanche, donc il sera suspendu aussi la prochaine fois. Il y a Machida qui est au Japon, il y a Leysen qui est blessé.
Et mauvais.
Bam. Ça c'est parti, c'est gratuit.
Je ne le connais pas, mais je constate les derniers matchs, même les supporters unionistes m'envoient des messages en disant qu'il est catastrophique. Donc
voilà. Ça ils vont rentrer un peu dans le dur, les unionistes, on va voir.
Après, Sam, il faut bien noter que McAllister, l'Union sait faire sans, même sans le remplacer, puisqu'ils ont battu Anderlecht en coupe sans lui pendant plein des temps, à 10 contre 11.
C'est vrai. Amoura, un petit mot sur l'attaquant.
C'est bizarre à dire pour un joueur de foot, mais pourvu que son épaule tienne.
C'est vrai.
Parce que c'est problème.
Il faudra voir, la fin du mercato approche. Hein, donc.
Tu penses qu'il pourrait être débauché ?
Je sais pas. Parfois, ça ne se refuse pas une offre.
Oui, c'est vrai. Ça réfléchit. C'est vrai qu'il a fait une saison remarquable. Et on pourrait le voir peut-être partir.
Je ne pense pas qu'il partira avant la fin de saison. Je ne peux pas imaginer. Peut-être le transférer un petit peu comme ils viennent de le faire. On y reviendra peut-être avec Nouza. Jackpot brugeois, un de plus. Avec le transfert cet hiver, mais la location jusqu'à fin de saison. Je vois mal l'Union se séparer d'Amoura avant la fin de saison.
Surtout.
Eux qui veulent vraiment être champions et qui ont, pour le moment, toutes les planètes alignées pour l'être. Parce que s'ils ne le sont pas cette année, c'est un petit peu comme Arsenal l'année passée. Alors, ils ne le seront plus jamais.
C'est vrai. Et ils ont un calendrier chargé, puisqu'ils sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe. Et ils sont toujours en course en Coupe d'Europe. Donc, ils vont avoir besoin de toutes leurs forces et forces vives. Et à moi, un des meilleurs attaquants du championnat cette saison, ce serait effectivement étonnant, sauf grosse offre comme ce qu'a reçu le club de Bruges pour Antonio Nouza. Et ça nous permet, transition, de passer à nos amis brugeois. Je vois déjà l'œil qui frétille, vous ne le voyez pas, moi j'ai la chance de voir le retour de Didier, puisque les brugeois l'ont emporté. Les brugeois se déplaçaient sur la pelouse de Charleroi et ils l'ont emporté 1-4. Didier.
Mais quand même,
On t'écoute.
Je voulais préciser juste une chose concernant Nusa, et Alex, tu me corriges si je me trompe. La différence entre Nusa et Amoura, c'est que Nusa n'est pas incontournable à Bruges. Il a été blessé, il est généralement sur le banc et joker de luxe, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on le change après 60-65 minutes. Donc c'est pas du tout qu'il n'a pas la qualité pour être un titulaire à part entière, mais Bruges a appris, entre guillemets, à s'en passer depuis le début de la saison. Tandis qu'Amoura, dans le jeu unioniste, selon moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression, je ne vais pas dire qu'il était incontournable, la preuve c'est qu'ils ont éliminé Anderlecht en coupe sans lui, mais les gens jouent pour lui en fait, tandis que Nusa c'est autrement. Il y a d'autres sources de créatives à Bruges que pour pallier au départ de Nusa, et qui plus est, avec l'argent que ça va amener, on va pouvoir probablement aller chercher quelqu'un de valeur aussi pour le remplacer.
Alex ? Oui, après il ne faudra pas aller chercher un Yaremchuk. Et certainement pas payé 18 millions. Pour. Mais oui, disons que c'est tout à fait un profil différent. Nusa est arrivé à Bruges en provenance de Stabæk, si je me trompe pas, comme énorme talent avec un potentiel de malade, qui donne des assists à Haaland en équipe nationale norvégienne et qui était considéré dans le top 10 des plus grands talents il y a quelques années.
Ouais, c'est tout jeune.
Brentford paye ça. Brentford ne paye pas ses statistiques de cette saison, et Brentford espère investir en Nusa en se disant, bon, s'il explose chez nous, on fait l'affaire du siècle. S'il n'explose pas, on va retourner en Premiership avec une belle dette. Et encore, en Angleterre. Mais Amoura, c'est un joueur qui est considéré comme raté sur le banc de Lugano et qui vient à Lyon et qui explose à Lyon.
Rappelons que le transfert, on va parler du match après, mais Antonio Nusa, il a 18 ans. Hein, il aura seulement 19 ans mi-avril, 37 millions donc, c'est le record.
Il a coûté combien, Alex, de mémoire, c'était 8, ou je me trompe, ou moins encore
Prix d'achat.
Oui.
Nusa a été acheté... Nusa a été acheté 3 millions en fait.
3 millions.
3 millions, parce qu'on millions. Ferait, enfin Bruges ferait 34 millions de bénéfices dessus, d'après mes notes et mes statistiques.
Bravo.
Bah, je connais des gens du côté du SPF Finance qui doivent être très heureux de la transaction, parce que 34 millions de bénéfices, c'est quand même pas mal. Sur combien de temps? Un an et demi? 18 mois?
Non, plus. Pas loin, il a été acheté. Mais en fait, il a été acheté, il était aussi reprêté à son club de base, etc. Ah, okay. Mais après, oui, c'est ce qui est assez impressionnant en 2023-2024. C'est Nusa part pour 37 millions. Silla est parti pour 20 millions cet été. Tu as Lang qui est parti pour 15 millions et Buchanan est parti pour 8 millions et demi. Donc un bref calcul nous ramène quand même à une année extrêmement folle côté rentrée brugeoise. Et oui, on est au-delà des 70 millions presque.
C'est ça, et on disait que tous les ans la place de l'Union en Ligue des Champions, pardon, du club de Bruges en Ligue des Champions lui permettait de creuser son avance structurelle sur ses adversaires, ses compétiteurs belges. Et là, c'est grâce à la malice et grâce au talent du staff pour les transferts qu'ils vont réussir à empocher un super jackpot. 70 millions, tu dis, à peu près.
Un bref calcul, on peut faire.
Bravo. Et effectivement, ils se sont déforcés en lâchant deux joueurs, je pense donc à Buchanan et Nusa, qui sont pas non plus qui ne sont pas les numéros 1 et les fers de lance de l'équipe. Donc, ils vont pas, alors qu'ils sont en course pour revenir au plus haut niveau et dans les cimes du championnat, ils perdent finalement pas deux titulaires indiscutables et ils empochent un sacré pactole.
Non, t'es même à 80 millions et demi, mais oui, après c'est du trading.
Ouais.
C'est de la base de la bourse aussi, donc c'est ce qu'ils font avec des joueurs, c'est ce que Chelsea fait, c'est ce que Manchester City fait aussi. Ils achètent plein de jeunes joueurs et puis ils les revendent avec des grosses plus-values à un moment ou à un autre, sans qu'ils explosent chez eux. C'est autre chose, mais c'est comparable quelque part dans la forme de trading.
Ouais.
Et c'est ce que les clubs comme Bruges doivent faire et savent faire.
Et savent faire, voilà, c'est surtout ça. Et donc aucun de ces deux joueurs, par définition, ne jouait samedi à Charleroi. Et ça n'a bien sûr donc pas empêché le club de Bruges de l'emporter. 1-4, but de Mekele, Kasper Nielsen et un doublé de Thiago. Didier, je sens que tu as envie de nous parler de cet avant-centre avec lequel on a été un peu dur parfois, mais qui a enchaîné et a mis un doublé pour son équipe.
Ben, en fait, moi, il me surprend incroyablement dans la mesure où on nous l'a présenté comme un numéro 9 et quelqu'un, le buteur né. Et c'est vrai qu'il était en panne de but jusqu'à il y a peu. Et on sait aussi que chez les buteurs, il suffit d'un déclic. Thorgan Hazard le rappelait d'ailleurs hier en interview en disant « c'est mon premier but pour Anderlecht ». Mais c'est comme ça dans le foot, parfois il faut attendre longtemps, mais une fois que le premier est émis, les suivants s'enchaînent, c'est tout le mal qu'on lui souhaite d'ailleurs. Et Igor Thiago, moi, il m'impressionne encore plus quand il est dos au but. Pour lui enlever un ballon, il faut déjà se lever tôt. Il me fait penser un peu à Axel Witsel, en encore un peu plus physique. Alex me dira ce qu'il en pense, encore qu'ils n'ont pas la même place sur le terrain. Axel Witsel, c'est un milieu récupérateur, pas Thiago. Mais dès qu'on envoie un ballon sur Thiago, pour le lui enlever, bonjour. Et après, il en fait toujours un bon usage. Il est extrêmement technique. Je pense que c'est un gars qui peut apporter énormément à Bruges, pour autant qu'il y reste et qu'on n'ait pas une offre de nouveau absolument monstrueuse pour l'avoir, parce que je pense qu'il a un profil que beaucoup d'équipes aimeraient avoir. Pour, il me fait penser un peu à Colère, mais en un petit peu moins maladroit. En tout cas, Colère, c'était l'impression qu'il laissait toujours. Thiago, ouais, lui,
C'était un faux maladroit.
Oui, non. Il est vraiment impressionnant physiquement. À l'image d'un Van Aken, c'est aussi un faux lent, parce que quand tu le vois lancer, c'est quand même impressionnant. Peut-être sur les premiers mètres, c'est pas top, parce qu'il a une carcasse quand même à déplacer. Mais franchement, ce gars, il m'épate. Il m'épate aussi d'humilité. Il a l'air heureux de jouer au football. Il se prend pas la tête. Il m'a pas l'air d'être un grand simulateur. Voilà, moi je pense qu'il coche pas mal de cases pour plaire à Bruges. Il a la grinta, c'est tout le moins qu'on puisse espérer d'un Brésilien normalement. Si ça pouvait être le réveil qu'il pouvait aller se coucher après le mois de juin, ce serait très très bien, et que jusque-là il nous plante plein de buts, on sera très heureux.
Et on peut, juste pour préciser, il n'a que 22 ans et c'est vrai qu'il a un parcours atypique, enfin comme beaucoup de joueurs brésiliens, il y en a tellement qui partent de là-bas que ils peuvent pas tous aller jouer au Real Madrid ou dans les très grands clubs espagnols. Lui, il était en Bulgarie, Ludogorets Razgrad, où en une saison, il a joué 55 matchs, marqué 22 buts, et là, il est parti, il est encore mieux. 37 matchs joués, toutes compétitions confondues, 25 buts marqués avec le club de Bruges. Belle trouvaille. Hein.
L'attaquant le plus prolifique depuis longtemps. Belle trouvaille, oui, mais c'est surtout le match à Beşiktaş a changé beaucoup. C'était il y a 10 matchs ou 11 matchs peut-être.
Oui.
Et il s'est fait allumer dans la presse partout car Sporza avait titré « Ah, si Thiago marque, c'est que l'adversaire était ridicule et c'était facile. » Et dans le vestiaire brugeois, ça a fait le tour et il n'y a pas eu de rigolade, il n'y a pas eu de foutage de gueule. Il y a eu un soutien énorme. Depuis ce match-là, Bruges s'est renforcé mentalement avec toute l'équipe et tout le monde se met au diapason pour le club, pour la victoire. Et depuis lors, on voit le résultat. Je crois qu'il y a 3 buts qui ont été encaissés. Et tout le reste a été marqué, remporté, ou quelques matchs nuls en plus. Maline notamment, qui n'était pas du tout mérité, qu'on pourra recommencer le match aussi, à mon avis. Et j'espère, en tous les cas, même si ça ne se fera pas. mais depuis lors, Bruges est pré-invincible.
Et oui, Bruges.
Et Thiago marque 10 buts en 5 matchs.
Et Bruges, effectivement, sur une super lancée. Cette victoire permet donc aux Brugeois de se rapprocher. Ils sont à 12 points seulement de l'Union. On sait qu'on divisera. Et donc ça fait plus que 6 points si on divise maintenant. Et bien sûr, ils ne sont plus qu'à 4 points d'Anderlecht. C'est un peu ce que tu, Alex, ce que tu laissais entendre, ce que tu espérais peut-être secrètement, mais tu disais que ça pouvait arriver, que effectivement l'Union Saint-Gilloise était surfait sur une vague de réussite depuis le début de la saison, qui ne connaissait pas de creux pour le moment, et qu'au contraire Bruges avait eu de son côté plus de difficultés à démarrer, mais que les cours pouvaient s'inverser. Et effectivement, il y a un moment où il faudrait pas pour les unionistes que ça s'inverse, et ça pourrait être maintenant. En tout cas, voilà, ils sont à 12 points, ils ont repris 4 points sur les 3 derniers matchs, les Brugeois. Didier,
à noter que j'avais dit la semaine passée une équipe qui marque à la 47e, enfin 45 plus 2 et à la 90 plus 4, c'est la réussite, parce que la chance, ils n'en ont pas. Ils ont la réussite, les unionistes, c'était la réussite du champion. Et ben, peut-être que la machine s'est enrayée. Il faudra voir comment ils vont digérer ça mentalement, parce que c'est vrai que mener 0-2 Anderlecht, se faire rejoindre, ça ne doit pas être évident. Donc là, je pense qu'on verra les capacités de Blessing, dont je ne doute pas personnellement, parce qu'en voilà un qui met sa patte dans l'équipe. Et on a vu les trois derniers entraîneurs de l'Union, je parle sous ton contrôle, Alex, toi qui connaissais bien l'Union à ce niveau-là, que ce soit Felice Mazzu, Karel Gerhards ou maintenant Blessing, eh bien, il y a toujours cette même grinta, mais on sent qu'un système de jeu a changé. Moi, ce qui m'impressionne à l'Union, pour parler d'eux encore un instant, c'est leur forme physique, parce qu'ils ont un noyau apparemment moins fort ou moins pléthorique que d'autres équipes. Ils sont également sur les trois fronts, et ces mecs, ils ne lâchent rien pendant 90 minutes. Ils sont à deux sur chaque porteur du ballon en permanence ou quasiment. Le contre-pressing est juste impressionnant. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est peut-être le Simeone belge s'appelle peut-être Alexander Blessing au niveau de la Grinta.
Bon, Blessing a toujours été connu pour un football assez attractif. Hein, donc après, il doit faire avec ce qu'il a comme matos. Et les joueurs peuvent, ces joueurs-là peuvent se permettre de jouer de ce style-là. Et tant que ça fonctionne, voilà, et on reçoit les louanges. Mais après, voilà, chaque entraîneur a de toute façon sa patte. Mais voilà, il y a ce système de prime, il y a ce système de motivation dans
l'Union. Paris merci, il a la patte de saumon. Visiblement, ça fait.
Ils ont pas de pâtes, les
c'est pas tout bon.
Non, chaque entraîneur a de toute façon un style particulier de jeu, de tout. Mais oui, il faudra voir dans la durée qu'est-ce qui va encore se passer. Le mois de février va être capital. Dans un mois, tu verras beaucoup plus clair. Et c'est l'année passée, c'est là que les problèmes avaient commencé.
Ouais, l'opération des Brugeois est bonne, et elle est très très bonne même, parce que ce sont les seuls du top 6 à avoir gagné, ce qui fait que deux semaines de suite fatalement, et à part l'Union la semaine passée, aucune autre équipe du top 6 n'avait même gagné. Enfin, si l'Antwerp avait gagné la semaine passée, mais il y a eu que ça patauge, quoi. Ça pataugeait pas mal, que ce soit la Gantoise, Genk.
En fait, du
l'Antwerp.
Top 10 initial, Bruges est la seule équipe qui a gagné ce week-end. Ça, c'est très bizarre. Maintenant, Malines a passé au-dessus de Saint-Tron et du Standard. Et Malines est la deuxième équipe du top 10 à avoir, en fait, du top 11, Bruges et Malines sont les deux seules équipes à avoir gagné, ce qui est assez particulier dans un championnat à 16.
Ouais. Un mot du Standard. Je sais pas si Steve nous écoute. Le Standard, on disait bon, ça devrait aller. Ils n'ont que 4 points, 3 points pardon, d'avance sur le 13e. Charleroi, 21 points. RWDM, 21 points également. EPN, 12e, à 21 points. Et le Standard, il faut commencer à suer un petit peu. Oui, Didier.
Si je peux me permettre, tu as évoqué Molenbeek. Je voudrais quand même avoir une pensée émue pour Molenbeek, parce que franchement, ils sont en train de pédaler dans la semoule, mais tu ne t'embêtes pas quand tu les vois jouer au foot. C'est des gars hier qui étaient réduits à 10 après 3 minutes ou 4 minutes de jeu, qui se sont retrouvés menés par une équipe Grinta comme Malines, avec leur nouvel entraîneur qui n'est pas non plus un perdreau de l'année. Les Anderlechtois s'en souviennent probablement avec Asie. Qui arrive quand même à égaliser et qui encaisse un but à la dernière seconde de jeu. Franchement, c'est un but venu de nulle part, mais qui va faire le tour de la toile, parce qu'il était juste somptueux, de Schoofs. Mais je trouve que Molenbeek est vraiment, même s'ils ont pris 14 buts ou 13 buts contre Bruges en deux confrontations, mais je trouve qu'ils jouent au football. Ils sont pas à la place, ils méritent pas de végéter là où ils végètent par rapport au football produit.
Alex,
c'est dommage.
Pour conclure sur mon avis sur la Jupiler Pro League, effectivement, ils sont une position assez délicate, 14e, 21 points, comme Sporting de Charleroi, comme Eupen, Westerlo n'a que un point de plus en fait. Et donc je pense que la lutte pour les places 10-14 va vraiment être sans merci jusqu'à la dernière journée, et ça fait un peu peur, hein. On va se retrouver avec des situations comme il y a 4-5 ans, là, les Malines Beveren qui s'offrent des points, des trucs comme ça. Ça va. Je me demande, parce que des équipes qui restent là,
Ouais, ça va être
Standard, Charleroi, Molenbeek, c'est des gros noms, c'est pas des noms qui ont l'ambition de jouer en D1B l'année prochaine.
Donc, il faudra avoir la moelle pour justement résister.
Et l'expérience, Eupen a l'expérience, le match contre l'Antwerp, Eupen le gagne à l'expérience aussi, même si Janssen rate un penalty, mais Eupen a cette expérience contre la relégation, comme Courtrai, comme OHL.
Comme OHL, ouais.
Un peu comme Westerlo aussi, ils ont quand même quelques joueurs qui savent quoi faire. Standard l'a pas, Charleroi l'a pas, Molenbeek l'a pas.
Il y a un dernier mot et après on passe à la minute sportive. Je t'écoute.
La défaite hier de l'Antwerp, je pense, et Steve doit être de mon avis, c'est la plus mauvaise nouvelle qu'il pouvait y avoir pour le Standard qui doit aller à l'Antwerp cette semaine.
C'est vrai, ça va être
mercredi. Donc,
rebond ou pas rebond. On verra ça. On ferme donc cette page Jupiler Pro League, juste en rappelant que on perd pas de temps puisque c'est déjà demain la 23e journée avec Bruges qui reçoit Courtrai, le Standard comme tu l'as dit ça c'est mercredi qui reçoit l'Antwerp, l'Union dans un autre derby bruxellois, l'Union reçoit le RWDM, quant à Anderlecht il se déplacera à Malines. On en a fini avec la Jupiler Pro League. Et maintenant, on va parler un peu business, marketing et autres. Alex, tu nous as dit qu'on allait aller dans des stades.
Tout à fait. On va commencer notre périple en Suisse par Sion. Et... un club quand même assez connu, qui a encore joué l'Europe il n'y a pas si longtemps. Et Sion va construire un nouveau stade ultra moderne en Suisse. Et ils ont compris le business model. Parce qu'à Sion, il y aura d'un côté le stade Les Gradins. Ce stade sera utilisé pour des concerts, pour des représentations, éventuellement même pour d'autres disciplines sportives. Mais aussi, il y a des appartements, des hôtels et des magasins dans ce stade. Et donc, ils ont compris comment financer ce projet à court terme. Pour justement avoir un nouveau stade et développer le club. Et donc, c'est ce qui va se passer à Sion. Et par cette occasion-là, j'ai trouvé quelques stades en Belgique et ailleurs où est-ce qu'il y a des choses inattendues. Donc, on connaît Saint-Tron qui joue au Wasabi Stadion. Et à Saint-Tron, il y a un hôtel, un centre commercial, un décathlon, et d'eau, même une grande surface dont on taira le nom qui est sous le stade. À Gand, la Gelamco Arena, tout autour, les loges en semaine deviennent des bureaux pour de diverses entreprises. Donc, il y a un revenu qui revient aussi. Et certains clubs vont même encore plus loin. Donc, à Memphis, par exemple, dans l'arène de basket, il y a un barbier.
Waouh.
Donc, vu sur le terrain, c'est toujours sympa quand on s'est coupé la barbe, quand on est tout propre.
Oui, je vois ça.
Et en Allemagne, à Sankt Pauli, il y a même une crèche. Donc, les enfants...
Parce que les joueurs viennent déposer leurs enfants avant de venir au match.
Ça me paraît peu probable, mais en tous les cas, il y a une crèche dans ce stade. Donc, c'est de nouveau une sorte de revenu en plus. Et si on va même jusqu'à Tottenham, qui est un grand club, ils ont prévu d'installer une piste de karting dans les catacombes du stade également. Donc, il y a plus que l'expérience maintenant pour les supporters. Elle va du shopping, elle va au karting, elle va dans même des représentations, des spectacles, etc. En plus du foot. Donc, bien vu de ces clubs et ça pourra donner des idées à certains clubs en Belgique qui veulent construire un nouveau stade. Parce que c'est nécessaire.
Oui, parce qu'on sait que la première utilisation autre que celle du sport, c'était les concerts. Et qu'effectivement, avec le temps, les idées sont venues. Et laisser un endroit qui coûte si cher et qui est si grand, inutilisé la plupart du temps, c'est dommage quand on peut effectivement allier le plaisir, l'utile à l'agréable, allais-je dire, l'utile étant les revenus pour les clubs. Eh ben merci beaucoup Alex, on va s'intéresser, on regardera tous les stades d'un autre œil à partir de maintenant. Et effectivement, avis aux amateurs, enrichissez vos stades. Alors, on va pousser, Didier va pousser un coup de gueule. En tout cas, on va parler de l'affaire, un petit peu l'affaire de la semaine. Puisque on a appris que le match Anderlecht-Genk sera sans doute rejoué, ou peut-être pas, parce qu'Anderlecht finalement a fait appel. Est-ce que Didier, tu veux nous résumer un petit peu la cause de cet imbroglio, un penalty qui finalement a eu un penalty manqué qui a des conséquences assez improbables.
Alors, d'abord, le penalty a été manqué, le tir du penalty a été manqué, mais sur la reprise, il y a eu but.
Voilà.
But qui a été annulé parce que un joueur de Genk, puisque c'est Genk qui avait obtenu le penalty, ou Anderlecht, je ne sais plus. Enfin, bref, Alex, tu me corriges. L'arbitre a vu qu'il y avait un joueur de l'équipe qui tirait le penalty qui était dans le rectangle, mais il n'a pas vu qu'il y avait également des joueurs de l'équipe adverse dans rectangle. Il aurait dû s'annuler et donc le but aurait dû être validé, ce qui n'a pas été le cas, ou en tout cas le penalty aurait dû être retiré.
C'est ça. Selon les lois du jeu, s'il y a empiètement d'un joueur qui attaque et d'un joueur qui défend, on doit retirer le penalty. Donc effectivement, le but sur le rebond ne doit pas être accepté, mais on doit retirer, ce qui n'a pas été le cas.
Alors, l'imbroglio vient du fait que quand il s'agit d'une erreur d'interprétation, alors le match ne doit pas être rejoué, en aucun cas. Mais quand il s'agit d'une erreur qui fait que les règles du jeu n'ont pas été respectées, cherchez l'erreur, alors le match devrait pouvoir être rejoué. Et mon coup de gueule est le suivant. Je pense que, je ne sais pas, et Alex connaît les chiffres mieux que moi, combien de pays sont affiliés à la FIFA ou à l'UEFA. Et je pense que nous devrons être le seul pays au monde, si ce match doit être rejoué, où ça va se produire. Et à partir de là, si ce match doit être rejoué, alors, en fonction de ce que j'entends, on devrait pouvoir rejouer Malines-Bruges aussi, parce qu'il y a eu une erreur, pas d'interprétation, puisque l'image est claire, il n'y avait pas de hors-jeu sur le but, donc le VAR n'a de nouveau pas fait son travail, et donc on aura des championnats, non pas à 40 matchs, mais à 80, voire 120, puisque chaque match, on pourrait en discuter, puisque c'est ça la beauté du foot, en quelque sorte. Alors, si on arrive à rejouer un match à cause de la VAR, on en arrivera à se dire pourquoi est-ce qu'on a mis la VAR dedans. Parce que jusque-là, depuis que je suis né, depuis qu'on est tous là et qu'on aime le foot, eh bien, dans les cafés, on parle que des décisions arbitrales. Ça fait partie du folklore, comme on se dispute à la belote et comme on se dispute chaque fois. Moi, je pense que si on fait ça, on commet un précédent, mais absolument inimaginable, qu'on va être la risée mondiale. Et que, eh bien, voilà, ça fait partie. Ça s'annule dans la saison. Et puis c'est tout.
C'est pas grave à la limite. Enfin, c'est pas grave. C'est bien sûr que c'est grave, mais voilà.
Et mon coup de gueule, il n'est pas que sur là-dessus. C'est que tu en arrives maintenant, puisque la télé est là et qu'on voit tous les matchs tout le temps. Les supporters font maintenant décident maintenant de l'issue d'un match. C'est-à-dire qu'on a dû se faire suer. Je vais rester poli. Le lendemain d'un match pour 11 minutes, regarder Molenbeek jouer contre Eupen parce que le public, c'était Eupen, je pense, le public avait lancé des fumigènes et à juste titre, l'arbitre avait interrompu la partie. Moi, je dis dans ces cas-là, tu punis les coupables, c'est-à-dire les supporters, donc le club, c'est 0-5, 5-0, match perdu, terminé, bonsoir. Si on commence à jouer, on interrompt les matchs et puis on revient pour 3 minutes faire le lendemain un match, ça n'a plus aucun sens et ce sport perd toute son essence, selon moi. Je ne supporte pas cette idée-là.
Alex.
Ouais, non. Sur le fond, je suis d'accord, mais cette règle a été inventée, je parle de jouer à huis clos, cette règle a été inventée pour éviter que des supporters d'autres équipes aillent dans la partie domicile, jette des fumigènes, arrête le match pour que l'équipe à domicile perde en faveur de leur équipe quand il ne devrait pas être là. Donc tu ne sais pas identifier ton supporter, sauf si tu reviens il y a 25 ans avec la fameuse fan carte de Jean-Marie Philips. C'est vraiment très compliqué. Je pense que c'est ridicule, mais c'est plus juste de le faire comme ça.
Ça veut dire,
parce que sinon, alors, moi, demain, sinon, c'est simple. Regarde la coupe. T'as Bruges Union, Didier, c'est 0-0 à Bruges et à l'Union c'est 1-0 à 90 minutes. Toi Didier, tu as pris 5 fumigènes, tu les as cachés dans tes orifices, pure hypothèse, et tu vas à l'Union dans le passage à domicile et tu jettes 5 fumigènes sur le terrain. Le match est arrêté, mais pour le même prix, ça, si on suit ta logique, alors c'est 0-5 pour Bruges. Hein.
Non, je comprends tout à fait, mais ça commence par où ? Ça commence par l'éducation, et je prends pour exemple, dans un tout autre cadre, mais quand tu regardes le hooliganisme qui était vraiment un fléau mais inimaginable en Angleterre il y a un peu moins de 40 ans, il y aura 40 ans l'année prochaine du drame du Hesel, au jour d'aujourd'hui, et tu n'as pas des grillages, et tu n'as pas, ici on a l'impression que ce sont des camps retranchés, les stades, avec des autopompes, etc. Tu vois en Angleterre aujourd'hui, qui était le pays du hooliganisme, les supporters sont à même le terrain, et tu n'as aucun problème. Quand tu vois le VAR ou l'arbitre qui prend une décision, t'as les joueurs, t'as pas des joueurs qui vont et qui se mettent tête contre tête contre devant l'arbitre. Il y a une autre éducation.
Je pense, pour revenir sur parce que là on envisage un peu toutes les hypothèses de match à rejouer. Juste sur ce penalty gate, moi ce que j'ai du mal à comprendre, et tu le disais un peu Didier, c'est l'arbitre, il fait une erreur. Enfin, je veux dire, après, on commence à faire des circonvolutions pour dire est-ce que c'est une erreur d'interprétation ou une erreur d'application des règles. Les règles, elles sont là. S'il les applique pas, c'est une erreur d'interprétation de la règle ou on voit pas Vata qui marque de la main contre l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe en 90. On n'a pas le droit de jouer avec la main. Et l'arbitre l'a pas vu. Le but est accordé. C'est comme ça.
C'est différent. Les moyens sont tout à fait différents.
Oui, non, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, on parle du. Je suis d'accord. Le VAR a mal fait son travail. Sans doute que parce que tout ça s'est passé devant le département des arbitres, qui a sans doute pas voulu accabler les siens. Et total, on se retrouve avec un appel.
C'est pas comme ça que ça marche. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous donner un dernier exemple parce que c'est vrai que le temps file. Mais combien de matchs on devrait rejouer? Le nombre d'équipes qui ont pris un but sur corner alors que corner il n'y avait pas.
Je suis d'accord. On en revient toujours à ça. Et ça, c'est même pas VAR.
Ça, c'est par le passé. Et maintenant, tu es dans un système VAR et tu dois adapter tes règles footballistiques et du terrain en fonction de ce qui se passe et de ce que tu as autour et des autres variables. Par exemple, maintenant, tu parles de ce penalty gate. Ce penalty gate, pour moi, il est ridicule. Il est issu d'une règle trop stricte que l'arbitre a voulu appliquer, parce que tu regardes les 20 derniers pénaltys tirés en Belgique, compte combien de joueurs sont dans le rectangle avant qu'ils frappent le ballon. Ouais. C'est comme la zone 30 à Bruxelles, on te sanctionne quand tu sais pas respecter une zone 30, quand ton moteur, déjà tout seul, il roule à plus que du 30. C'est tout à fait ridicule. C'est débile. Donc, tu dois accepter, voilà. Une fois que le joueur s'élance pour aller tirer le ballon, personne peut être dans son champ de tir, mais les autres qui rentrent sur le terrain, sur le côté, tu le tolères. Et donc, c'est un excès de zèle, je pense, de l'arbitre à ce moment-là, combiné à une erreur de la VAR et d'appréciation de l'arbitre et de son juge de touche, qui nous amène dans une situation si débile. Par contre, c'est vraiment peut-être une bonne conclusion. Ce genre d'appel, les clubs doivent avoir 24 heures pour faire appel et ça doit être jugé dans les 7 jours ouvrables par une instance de la Pro League. Et à ce moment-là, on évite ce ridicule qui gravite autour d'une situation. Et c'est,
on rappelle que le match a été le 23 décembre.
Le problème, c'est qu'on est en Belgique. Donc, tu as appel sur appel.
Contre-appel.
Toutes les possibilités d'appel par la Pro League. Puis, tu as le tribunal du sport. Et après le tribunal du sport, je te paye cher. T'as le tribunal civil aussi pour un manque à gagner ou pour un truc comme ça.
Et s'il se passe quelque chose, ils iront à Lausanne au tribunal arbitral du sport.
Mais non, je te parle, t'as même le civil ici en Belgique qui peut être utilisé. Il y a eu une menace il y a quelques années. Je pense que Bruges n'était pas loin de ça.
Excusez-moi, je suis d'accord avec Alex, mais on peut encore aller plus loin dans le raisonnement. C'est que cette affaire du penalty gate, c'était il y a plus d'un mois maintenant, un mois et demi.
23 décembre.
Ça veut dire qu'il y a déjà 6 ou 7 matchs.
Absolument.
Qu'ils ont encore un mois et demi pour pouvoir pour prononcer la mesure appel ou pas, ok ou non. Ça veut dire qu'il y aura une dizaine de matchs, un tiers de championnat qui se sera déroulé entre les fêtes et la décision. Ça veut dire que les paramètres ne seront plus les mêmes.
Je suis d'accord. C'est sans doute effectivement ça le plus important. S'il doit y avoir appel, comme le disait Alex, que ça se fasse très vite pour qu'on puisse purger ça. Là, comme vous le dites tous les deux, il reste 7 journées de championnat. Ils vont caler un match qui concerne le top 6. Ils pourraient caler ce match-là à ce moment-là. Et donc, on a des équipes qui vont jouer. Ces deux équipes vont jouer en connaissant le résultat des autres, en sachant exactement ce que faire et pas faire. C'est même injuste, je trouve, pour les autres équipes du top 6. On va suivre ça avec intérêt. Merci Didier. On n'a pas eu le temps de parler de la vache des entraîneurs. Nul doute qu'on aura le temps de le faire la semaine prochaine. On aura eu la fin du mercato aussi.
Puis la musique continue, hein. La valse, ça va continuer.
Elle va continuer, voilà. Merci Alex pour ce tour des stades qui nous a appris bien des choses. Et puis on vous salue toutes et tous. Merci de nous avoir suivis cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour jouer encore une fois la prolongation. Bye bye.
Au revoir.
Bye. Salut les gars.
Salut.